Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La complexité, elle est qu'elles ont généralement un historique, un écosystème en fait plus ou moins vétuste, et que du coup, c'est clairement pas leur cœur de business. Avant, ils avaient pris un logiciel de caisse, voilà, qui a bien évidemment évolué. Voilà. Donc ils ont été obligés, si vous voulez, d'apprendre des métiers qui n'étaient pas les leurs.
La transformation digitale, c'est central aujourd'hui dans la stratégie et le développement de quasiment toutes les entreprises. En 2022 et bientôt 2023, difficile de faire sans Internet et un site e-commerce. Mais s'y mettre n'est pas facile pour autant, gare aux écueils et aux dépenses inutiles. Bien souvent, quand on est un entrepreneur, faire sa transformation digitale, cela passe aussi par le choix d'outils, de plateformes et de solutions puissantes, comme par exemple le choix d'une plateforme SaaS. Lors de la Winter Edition 2022, les Big Boss au Club Med de l'Alpe d'Huez, il se trouvait justement qu'une plateforme SaaS était représentée. Une plateforme qui a également fait un livre blanc en collaboration avec les Big Boss sur la transformation digitale. Cette plateforme, c'est WShop. Et Siècle Digital a profité de la Winter pour parler transformation numérique et impact sur le commerce avec son fondateur et son actuel CEO, Brice Ohayon. Vous écoutez un épisode spécial de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital, évidemment. Bonjour Brice.
Salut.
Toi, tu es le fondateur et CEO de WShop. WShop, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, c'est, si j'ai bien compris, une solution SaaS de commerce digital unifié. C'est comme ça en tout cas que c'est présenté. Mais pour éclaircir tout ça, comment tu décrirais toi ton entreprise ?
Alors le WShop, c'est né sur le principe d'un besoin des retailers et des clients aujourd'hui qu'on arrive à adresser. Effectivement, c'est une solution SaaS, mais une fois de plus, en fait, c'est là pour régler une problématique ou si on pourrait même appeler ça des souffrances, des retailers aujourd'hui qui ont de grosses difficultés, en gros, à mettre en œuvre une solution qui répond tout simplement à leurs clients. En gros, être capable pour le client d'acheter un produit, quel que soit l'endroit où il se trouve, et d'avoir la capacité de se le faire livrer, en fait, quel que soit l'endroit où le client se trouve. Pour faire assez simple, l'autre particularité de WShop, donc on gère... Je ne l'ai peut-être pas introduit, toute la partie e-commerce qui est historique. Donc tout le monde connaît, bien évidemment, bien avant toute la partie Covid. Et particulièrement, et c'est ce qui nous différencie aujourd'hui, toute la partie digitale. Tout ce qui est click and collect, ship from store, e-réservation, et qui du coup permet d'avoir un parcours d'achat pour le client final, en fait, le plus fluide possible. Voilà. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui.
Et pourquoi avoir créé une entreprise dans ce secteur-là ?
Pourquoi avoir créé une entreprise dans ce secteur-là ? Alors moi, je viens de l'agence. Ça fait 22 ans que je suis entrepreneur. Et pour être très sincère, la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est qu'il change quasiment tous les jours. On est dans un secteur d'activité, en fait, qui se transforme. Vous êtes bien placé pour le savoir. Quasiment toutes les semaines. Et il y a toujours une nouvelle solution qu'on doit venir brancher, en fait, pour améliorer le produit. Il y a les mœurs qui changent, les moyens de paiement, la logistique. Enfin, c'est assez incroyable. Et c'est ce qui fait que sur la partie... corps du métier, on a vraiment l'impression, les technologies évidemment, de changer de métier en permanence. Et à chaque fois qu'on rentre un nouveau client, c'est jamais forcément les mêmes problématiques de fond. Et on découvre en fait un métier, que ce soit dans le textile, l'équipement de la maison, ce genre de choses, c'est assez passionnant.
Ouais, on s'ennuie jamais.
Ouais, exactement.
Et ça a été compliqué de monter son business comme ça ?
C'est très compliqué d'être entrepreneur. Bon, moi, j'ai jusqu'en 2021 maintenant, j'étais seul. C'était un choix. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une vocation. Voilà, c'est des métiers comme ça où on est tous faits pour ou destinés à faire une certaine chose. Il faut avoir énormément de mental et c'est ce que j'ai systématiquement tendance à dire, beaucoup de persévérance. En fait, je pense que si aujourd'hui on n'a pas trop mal réussi, c'est parce qu'on est extrêmement persévérant. Voilà, on plus communément appelé aujourd'hui. Grâce au Covid ou à cause, en gros, la résilience. Voilà.
Oui, la fameuse résilience.
C'est un peu dans le même scope, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se réinventer en permanence. Et ça, c'est pas se remettre en cause, se réinventer, c'est pas des choses simples en termes de processus intellectuel.
Mmh. Voilà. Avant, j'ai parlé d'une solution SaaS de commerce digital unifié. C'est quoi le commerce digital unifié ?
Le commerce digital unifié. En gros, avant que le digital existe, il y avait du commerce. Donc tout ça, tout le monde le connaît depuis des centaines d'années.
Ça va.
L'introduction du digital, c'est l'arrivée, on va dire, de l'e-commerce, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, pourquoi on parle d'unification ? Parce qu'en gros, les points de contact avec les clients pour faire l'achat d'un produit, en fait, se sont considérablement multipliés, ou les points de contact avec la marque. Et c'est là où la problématique d'unification s'est présentée. Vous allez en ligne, c'est marrant parce que dans la presse, on a l'impression que c'est quelque chose qui est assez classique, mais ça n'est pas du tout. Je vous invite à faire l'exercice de savoir quelle marque on enseigne aujourd'hui est capable de vous dire ce que vous avez acheté en ligne quand vous vous présentez en magasin. Ou d'avoir vos informations personnelles que vous avez déjà rentrées sur leur app quand vous vous présentez en magasin, et vice-versa, bien évidemment. Si vous êtes, y a très peu d'enseignes aujourd'hui où vous avez une visibilité sur ce que potentiellement vous avez acheté dans leur réseau quand vous vous connectez sur votre espace web. C'est à ce moment-là on parle d'unification. En gros, okay. La première étape, c'est d'arriver, bien évidemment, à unifier la donnée. Et puis après, crescendo, on va être capable d'unifier toute la partie monétique, de mettre à jour en temps réel, bien évidemment, les informations du client, que ce soit une adresse email, une adresse de livraison, et ou un historique d'achat qui permet de faire du data mining et indirectement d'être capable de mieux recommander un produit.
Mm-hmm.
Voilà, en gros, la dimension d'unification, c'est la capacité, en gros, quel que soit l'endroit où se trouve le client, d'avoir l'information de son historique, quel qu'en soit l'endroit où il a réalisé un achat okay. dans le passé.
Et tout ça, ça rentre un peu dans le grand domaine de la transformation digitale. Et si on est là, tous les deux, à cette Winter Edition 2022 des Big Boss, c'est pour parler transformation digitale. Je propose déjà de faire un point sur ces termes. On est d'accord qu'aujourd'hui, quasiment toutes, pour ne pas dire vraiment toutes les entreprises, ont d'ores et déjà entamé ou fait leur transition digitale.
Alors,
c'est obligatoire en 2022.
C'est une nécessité. Bon, ça l'était en 2021, 2020, 2019. Ok, j'arrête. Non, plus sérieusement, c'est malheureusement devenu une nécessité. Donc, dans le périmètre d'activité qu'on décrit aujourd'hui, donc toute la partie marque et enseigne, donc qui ont des magasins, la complexité, elle est qu'elles ont généralement un historique, un écosystème, en fait, plus ou moins vétuste, et que du coup, c'est clairement pas leur cœur de business. Avant,
c'est
ils avaient pris un logiciel de caisse, qui a bien évidemment évolué. Donc, ils ont été obligés, si vous voulez, d'apprendre des métiers qui n'étaient pas les leurs. Il y a eu une première phase historique qui a été, on va internaliser des équipes. Alors, c'est toujours le cas, mais ça dépend bien évidemment de la dimension de l'entreprise, mais c'était beaucoup plus populaire pour être capable d'adresser le sujet de la transformation digitale. Je vais revenir sur la description ou la définition du terme qui est assez complexe, puisqu'encore une fois, c'est extrêmement tentaculaire. Voilà, c'est un mot que j'ai tendance à utiliser. C'est clairement pas leur métier, c'était pas leur métier. Et nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de les décharger de toute cette partie, on va dire, purement technique, qui n'a pas fondamentalement de valeur ajoutée, parce qu'on va parler quasiment, si je peux me permettre encore une fois, d'usage unique.
Mm-hmm.
Parce que la durée de vie du code aujourd'hui, où on considérait que c'était un actif, c'est plus le cas, encore une fois, à cause de la vitesse à laquelle les technologies changent. En revanche, le savoir-faire, sur le périmètre du digital, être capable de comprendre ou cette capacité ou cette maîtrise d'exploitation de la donnée quand on visualise le parcours d'achat d'un client, tout ça, en fait, doit être internalisé dans la boîte.
Mmh.
C'est une nécessité, ils en ont conscience, ils ont essayé, il y en a beaucoup qui se sont trompés, on a tendance à oublier un peu le passé, où il y a quand même des énormes groupes, ou des énormes structures qui ont dépensé des dizaines de millions d'euros et qui, au final, ça ne fonctionne pas. Ça arrive, ça continue d'arriver, malheureusement. Pour rappel, on est dans une période aujourd'hui complexe pour le retail. Hein. On a entendu encore avant-hier que Sand Marina, en fait, va passer en redressement. Hein. Donc, c'est des institutions historiques de commerce. Toutes ces structures, en fait, ont eu espoir, je pense, de par la transformation digitale, d'arriver à réinventer un peu leur business. Donc, il y a une vraie problématique de savoir par où je commence, comment j'y vais. Qu'est-ce que je mets en œuvre? C'est quoi les moyens? Est-ce que je dois internaliser des équipes? Oui. Combien? Sur quel périmètre? Vous imaginez la complexité du sujet? Moi, j'ai tendance à dire que si j'étais à leur place, très sincèrement, J'aurais énormément de difficultés à choisir le périmètre de mes prestataires ou des solutions technologiques que j'aurais besoin d'acquérir. Mmh. Et pour boucler un peu la boucle, la particularité de ce qu'on produit ou de ce qu'on propose aujourd'hui à travers de Blue Shop, c'est un modèle assez hybride puisqu'on est éditeur de cette fameuse solution qu'on a créée en fonction de ce besoin et non pas on a posé sur la table, et c'est très bien qu'il y en ait... des sociétés, on parle d'intelligence artificielle depuis très longtemps maintenant, voilà, dans des secteurs qui sont extrêmement avant-gardistes. Nous, on est plutôt dans le dur, dans le concret, en apportant très rapidement de la valeur ajoutée, parce que le time to market, comme je viens de l'expliquer, est capital. Et en gros, si vous voulez, comme on est éditeur et intégrateur, donc on porte la responsabilité du déploiement de la solution, donc on s'engage à ce qu'elle fonctionne, parce que sinon on n'est pas payé.
C'est sûr.
On peut difficilement faire mieux. Et on a tout ce processus d'accompagnement qui encore une fois est très très atypique, de dire on va cartographier les besoins et de part aujourd'hui les 55 clients qu'on a et le volume d'affaires et cette expérience de toutes les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, alors on est capable quand même d'arriver à guider assez rapidement le client sans aucune prétention, puisque ça reste bien évidemment un échange dans lequel on va se challenger, puisque on utilise nos clients aujourd'hui pour aller trouver de nouvelles idées, de les traduire en tech, hein, puisque c'est ce qu'on ferait. Puisque encore une fois le produit il bouge en permanence, hein, que ce soit au niveau technique et fonctionnel. Et donc voilà, donc oui c'est une nécessité, non c'est pas simple, c'est voire même extrêmement, j'aime pas ce mot-là, c'est complexe. Et notre métier nous c'est de briser ces efforts ou cette complexité pour arriver à proposer à notre client et surtout aux clients de notre client une expérience d'achat en fait la plus simple possible et la plus naturelle possible.
Donc il y a encore des progrès à faire.
C'est monumental. D'ailleurs c'est ce qui ressort l'étude puisque en gros. Il y en a quand même 70%, alors pour être très précis, c'est 69% en fait des interrogés. Hein, donc, on a interrogé 200 décideurs grâce au Big Boss, qui représente une masse significative, on va dire, hein, dans le secteur d'activité dont on parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y en a que 69% qui considèrent... il y en a 69% pardon, qui se considèrent en retard. Parce qu'ils ont déployé, donc on va recouper exactement ce que je viens de dire, ils ont réussi à déployer un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été bloqués par l'IT, de part, et encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont des mauvaises solutions, c'est parce qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle une dette. Hein, donc il y a un historique technologique, des infrastructures, des contraintes, des méthodologies, et des gens, parce qu'en fait, on a tendance à les oublier, mais c'est le truc le plus important dans l'écosystème. On a des gens qui utilisent ces outils, leur faire changer d'outils, bah, c'est des pas en fait qui sont stratégiques et qui peuvent être problématiques en fait dans la transformation digitale. Et donc l'IT, si vous voulez, est quand même un élément structurant et bien évidemment clé en fait dans la capacité à faire ça. Donc ils ont déployé des briques assez simples qui sont par exemple le click and collect, la capacité de livrer une commande dans une boutique ou encore en fait l'e-réservation. Mais à partir du moment où on parle en fait d'unifier la donnée client entre le magasin et le web, à partir du moment où on parle de transformer ou d'avoir la capacité d'unifier les stocks, ce qui fondamentalement techniquement, et ça va rassurer tout le monde, c'est extrêmement simple de faire 1 plus 1 égale 2, on ne sait jamais, parce que bon, on a aussi une spécialité parfois pour certains à complexifier les choses. Ce n'est pas tant le stock unifié qui est complexe, c'est la capacité à pouvoir ventiler les commandes sur ce stock en fonction d'un certain nombre de critères, ce qu'on appelle dans notre jargon un OMS, un Order Management System ou un outil d'orchestration des commandes. Et surtout, mais d'embarquer ces fameuses équipes qui sont dans le réseau depuis des dizaines d'années pour leur dire, bon, ben voilà, avant, tu devais servir un client qui passait dans la rue et qui poussait à la porte de ta boutique. Maintenant, il y a un mec que tu connais pas ou une dame que tu connais pas qui a passé une commande. Va falloir que tu lui prépares, que tu lui mettes dans un colis, que tu colles une étiquette. Donc, bien évidemment, c'est perçu, en fait, comme une transformation de magasin en logistique. Et parfois, encore une fois, hein, parce que la conduite du changement, elle vient pas de la direction générale, parce que c'est un outil exceptionnel, encore une fois, pour redynamiser ces structures, et c'est pas pris en fait mécaniquement, forcément dans le bon sens. C'est pris plutôt comme je vais avoir un boulot supplémentaire à faire. On le lit, on le voit, hein, plutôt que la direction elle embarque ses équipes en disant c'est un nouveau modèle. Vous êtes rémunéré de la même façon en fait que si vous l'aviez vendu à quelqu'un qui passait la porte de votre boutique, puisque bon, on va pas se mentir aussi, parfois c'est pas le cas, etc., etc. Et c'est absolument fascinant. Tout ce qui reste à faire, pour finaliser la réponse à la question, puisque aujourd'hui, la maturité n'est pas du tout à son apogée, et pour avoir eu la chance de rencontrer, je ne vais pas la citer aujourd'hui, mais une enseigne que tout le monde connaît dans un secteur d'activité d'un objet que tout le monde utilise pour dormir. Il y a beaucoup, et pas que. Il y a énormément de choses à faire encore dans des enseignes très historiques, monumentales, avec des centaines et des centaines de magasins qui sont au point zéro.
Mais j'ai quand même l'impression, par rapport à ce que tu viens de me dire, que la question aujourd'hui, c'est pas tant pourquoi faire une transformation digitale, c'est plutôt comment faire une transformation digitale.
C'est exactement ça, et par quel bout je vais commencer, qu'est-ce qui a le plus de valeur, comment je vais prioriser ma roadmap, et quel logiciel je vais utiliser. Et encore une fois, il y a plusieurs façons de l'adresser, en fonction d'une urgence, en fonction de moyens aussi. Hein. Parfois, les moyens, ça ne rend pas forcément service, hein. C'est même à titre perso. Parce que parfois, en fait, on fait n'importe quoi et on vulgarise un peu l'argent qu'on dépense. Quoi.
Ouais, justement, en parlant de faire n'importe quoi, quel est l'écueil peut-être qui revient le plus souvent, mais qui est absolument à éviter quand on fait une transformation digitale et qu'on doit faire justement cette évolution et cette mutation au niveau des équipes, etc.
L'écueil, c'est assez simple. En gros, je pense que malheureusement, les métiers de la tech parfois donnent de l'espoir. D'ailleurs, on le lit ou dans les stratégies commerciales. Grâce à moi, vous allez augmenter votre taux de conversion. C'est systématique, quelle que soit la solution. De toute façon, si on écoute tout le monde en tentaculaire, en modulaire, on a vraiment l'impression que dès qu'on prend une solution, c'est cette solution en fait qui va augmenter votre taux de conversion. Donc, il faut vraiment pas tomber dans ce piège-là en se disant ah bah tiens. Et ça veut pas dire qu'ils y participent pas, hein. Mais ça veut dire que si j'accélère dans le temps de chargement, c'est pas ça qui va me faire augmenter de 2% mon taux de conversion. C'est pas parce que, même si ça y participe, c'est pas parce que je rajoute une solution de paiement que ça va complètement changer mon modèle, même si ça y participe. C'est pas parce que je vais faire un Fast Connect que, du coup, pareil, encore une fois, je vais augmenter mon taux de conversion ou que j'ai un outil de merch, en fait, qui permet de faire tout et n'importe quoi. Et voilà, je pense que, et c'est un peu ma marque de fabrique, de par mes activités extra-professionnelles, je pense que ça manque de bon sens. En fait, les gens ont tendance à se cacher derrière de l'espoir technologique, alors qu'en fait, il faut déjà bien cranter le besoin économique et fondamental, en fait, et simple, en fait, d'un client final, et trouver la solution qui y répond. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, à cause de ce point-là, on voit des choses assez incroyables. On voit des gens qui ont une maturité sur des sujets, mais qui n'ont aucune valeur. Pardon.
Comme par exemple.
J'ai un client qui a développé qui a un vrai budget en fait pour faire des vidéos sur son blog et créer énormément de contenu. Qui fondamentalement, et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qui n'a même pas encore aujourd'hui ou n'avait pas à l'époque réussi à unifier ses stocks et à vendre en fait les produits qui étaient dans sa boutique.
Il a pas fait les choses dans le bon ordre.
C'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais du coup, c'est le piège, parce qu'en fait, comme vous vous dites, bon bah c'est plus facile en fait d'aller prendre un presta pour me créer énormément de contenu vidéo quant à l'utilisation de mon produit, puis les mettre sur mon blog où il n'y a pas de visite, où il n'y a pas de trafic. Et à contrario, de se dire, bon, bah, mon premier cheval de bataille, en fait, ça va vraiment être capable, parce qu'il faut quand même vous rendre compte d'un truc, hein. Ils ont les produits, hein, mais ils n'arrivent pas à les vendre. Ils ne peuvent pas les vendre parce que technologiquement, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui simples, en fait, si vous voulez, qui permettent de faire ça. Nous, on a un petit module assez sympa que j'adore et que certains de mes clients détestent, qui est un outil de mesure de manque à gagner.
D'accord.
Donc, c'est assez simple. Vous allez sur un site, ça a dû déjà vous arriver. Dites ah mince, j'ai pas trouvé ma. Je veux absolument acheter cette paire de pompes, mais en fait, elle n'existe pas dans ma taille. Donc là, vous êtes obsédé par la paire de pompes parce qu'en fait, vous avez envie de l'acheter. Vous voyez. Alors il faut savoir que la paire, elle existe. Elle existe juste pas au central stock, entrepôt, d'accord. Mais en fait, elle est en 25 exemplaires en fait dans le réseau. Deux, ce qu'on fait, c'est qu'on a un module où on va collecter l'adresse email de la personne qui le souhaite, qui va dire, je reste mon email, et puis le jour où ça rentre en stock, à ce moment-là, je vais lui faire une alerte. Voilà. Et en fait, on utilise cette donnée très basique. On multiplie en fait ce qu'on a, le panier moyen et ou la valeur de la pièce, en fait, pour calculer un manque à gagner potentiel. Et vous seriez très surpris. Et ensuite, calculer un taux de service. Imaginez, vous avez un magasin, et que dans ce magasin, à chaque fois qu'il y a un client qui passe la porte et qui met un produit dans le panier, vous êtes capable de mesurer qu'il n'est pas passé à la caisse. Et c'est exactement la même chose.
Je comprends que certains commerçants n'aiment pas.
Ouais, ils aiment pas. Et c'est, en fait, si vous voulez, c'est quand même un super indicateur. Encore une fois, dans la quantité ou la valeur, on peut la remettre en cause parce que vous allez me dire, D'abord, vous avez, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'en fait, tout le monde laisse pas son email.
Déjà, oui.
Donc, ça veut dire que pour moi, c'est à majorer. Et puis, voilà, est-ce que vous le mettez, est-ce que vous considérez que s'il y avait eu le produit, il l'aurait vraiment acheté ou pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce qu'on l'ajoute au panier, même si c'est le départ de l'entonnoir de conversion, est-ce qu'on doit calculer le manque à gagner là-dessus? C'est un vrai débat. Quoi qu'il arrive, c'est une réalité, le taux de service. C'est-à-dire que vous avez des clients qui ont passé la porte de la boutique et qui n'ont pas pu mettre leur produit dans leur panier. Très sincèrement, aujourd'hui, le premier sujet que nos clients et nos prospects et les fameux retailers ou les marques ou les enseignes, en fait, elles doivent résoudre, et c'est pas le plus simple, c'est cette disponibilité de stock qui est fondamentalement, c'est ça qui est aberrant, en fait, leur cœur de business, qu'ils le font excessivement bien, en fait, dans un réseau physique, et qu'ils ont énormément de mal à le mettre en œuvre, en fait, sur du digital, parce que pour eux, c'est pas concret. Voilà. Et ça, c'est une des solutions. Moi, c'est vraiment mon premier sujet aujourd'hui dans l'entreprise. Pour mes clients, c'est de trouver des solutions, les inciter, les convaincre, parce que malheureusement, c'est aussi ce qu'on est obligé de faire, et on recoupe avec le processus d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a développé ces produits, ce module, pardon, hein, de mesure de manque à gagner. Et pour information, sans divulguer, puisque encore une fois, on a une roadmap, on a recruté des data miners pour aller faire de l'expérimental avec des règles algorithmiques, si vous voulez, pour arriver à être beaucoup plus granulaire pour le client et être capable de lui dire, OK, le manque à gagner, bon, alors sur la partie outlet, ça vient fausser la stat, sur les soldes, ça vient fausser les stats. Mais par contre, regarde, sur cette typologie de produits, est-ce que c'était une ligne spécifique, une typologie spécifique, etc., etc., si tu avais acheté plus, et du coup, lui donner encore plus d'éléments, essayer de l'aider. Hein. De toute façon, c'est clair, aujourd'hui, dès qu'un client active le Ship From Store, avec ou sans nous, hein, parce qu'encore une fois, on est une solution de commerce unifiée, mais on est capable de brancher des tiers, et nous, tout ce qu'on veut, c'est faire du volume et que le client il soit sain. C'est à peu près 30% de croissance, et le client peut monter jusqu'à 40 ou 45% de ses expéditions à partir de son réseau, si c'est bien fait. Mais attention, c'est pas parce qu'on va développer l'outil branché que ça va marcher. Hein. Si les équipes sont pas formées, s'il n'y a pas un programme de reward pour le réseau, si c'est pas accompagné par des formations, s'il n'y a pas un service client interne qui suit les magasins, parce que c'est un vrai business, hein, parce que le magasin il dit je prends la commande et puis en fait il ne l'expédie pas, là, c'est catastrophique.
Oui.
Tout ça, ça va faire zéro. Et donc, c'est fondamental d'intégrer dans l'écosystème aussi, encore une fois, toute cette partie sociale qui est tellement importante. Et que c'est pas parce que vous branchez une solution de Ship From Store, que vous faites du commerce unifié,
Que ça va fonctionner.
Mais justement, est-ce que c'est pas là, finalement, l'un des principaux conseils à donner, de former quand même toutes les équipes et d'emmener tout le monde pour adopter les nouveaux outils? Parce que réussir à choisir les outils, il existe de plus en plus de propositions pour choisir des outils pour faire sa transformation digitale.
Il faut arriver à les brancher et puis qu'ils marchent entre eux et puis qu'il n'y ait pas de TMA.
C'est sûr, mais est-ce qu'au final, ce n'est pas aussi peut-être le point le plus sous-estimé peut-être par les entreprises, la formation?
En fait, je pense qu'en réglant le point 2, vous allez régler le point 1. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas se pervertir par l'idée que c'est l'outil qui va vous régler votre sujet. Donc, vous le dites vous-même, en fait. Hein, c'est que d'abord, en fait, c'est quoi mon intention? Comment je vais mettre en œuvre socialement, intellectuellement et culturellement dans mon entreprise? Comment je vais le déployer? Quelle force je vais mettre en œuvre? Et après, vous choisissez l'outil. Et aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. On choisit d'ailleurs la meilleure technologie de la planète. Et puis après, ça fait plouf parce qu'en fait, elle n'est pas mise en œuvre comme il faudrait qu'elle soit mise en œuvre.
Et dernière question, si je suis une entreprise, un acteur historique d'un secteur qui a un réseau physique de points de vente, en 2022, bientôt 2023, je dois me digitaliser, mais j'ai pas envie. Comment, toi, tu me convaincrais? Qu'est-ce que tu me dirais pour me dire, si, tu dois
j'ai
te
J'ai eu le malheur d'utiliser le mot convaincre tout à l'heure. Bon, déjà, je pense que on n'aurait pas de valeur ajoutée à intégrer un client qui n'a pas une volonté de se transformer digitalement.
Et pourtant, c'est peut-être nécessaire.
C'est nécessaire, mais bon, moi, je ne suis pas là pour convaincre non plus. C'est-à-dire que quand j'ai utilisé le mot tout à l'heure, et tu as raison, parfois c'est nécessaire parce qu'il faut bien comprendre qu'on s'adresse, en tout cas dans le produit qu'on propose aujourd'hui, nous on s'adresse à un directeur technique, un directeur marketing, un directeur général, un directeur financier, un président, un directeur e-commerce. Donc en fait, on n'a pas du tout les mêmes profils. Donc parfois, on est obligé de convaincre certains profils parce que la décision de la direction générale a souhaité le mettre en œuvre et que en fait ça peut aller à l'encontre en fait d'une stratégie technique qui avait été posée ou voilà, encore une fois il y a énormément d'humains dans nos sujets et parfois on peut sentir, et puis ça peut être le cas aussi dans le réseau, hein, des gens qui sont récalcitrants au changement. Enfin, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein. C'est pas simple, encore une fois, sur des populations qui dans le réseau elles sont encore une autre typologie de population. Donc généralement le client quand on l'approche, on le convainc par le chiffre. En fait, C'est assez simple. Enfin, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que, en gros, ils font du business, ils font 10. C'est aberrant. L'exemple que j'ai donné du client qui rentre dans un magasin et le produit, il est là, imaginez, il peut pas l'acheter, en fait. Il peut pas le payer. Enfin, moi, je suis le patron, je pète un câble. Non, mais c'est la vérité.
Ouais,
donc, en fait, on veut juste répondre à ça, en fait. Et on considère qu'on a énormément de valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a le produit, c'est nous qui l'intégrons, donc on le maîtrise. Et en plus de ça, si jamais ça marche pas, on n'a pas le gain de nos efforts. Donc, vous imaginez bien que c'est un no-brainer, en fait, fondamentalement, en fait, pour le mettre en œuvre. Donc, voilà. Donc, je vous dis, les deux conseils fondamentaux, c'est le bon sens, la remise en question, ne pas se précipiter sur le choix d'un outil qui, au demeurant, en fait, individuellement, c'est quelque chose, le produit est exceptionnel, mais va pas du tout correspondre dans un écosystème historique et ne répondra pas non plus dans sa méthode d'intégration ou dans l'accompagnement, en fait, ne sera pas capable de répondre à la problématique. Et c'est un peu le produit qu'on a créé. On a créé un truc un peu all-in-one, qui permet du coup de garantir à nos prospects ou à nos clients en fait que ça fonctionne, parce que c'est nous qui portons en fait le stress et les problématiques de mise en œuvre, et c'est ça qui fait un peu la réussite ou la chance en fait d'accompagner des très grosses enseignes aujourd'hui.
Eh ben, les conseils sont notés. On a bien aussi compris que une transformation digitale, c'est tentaculaire, pour reprendre un de tes termes.
Ouais.
C'est moins facile qu'il n'y paraît. Merci.
Ça veut tout et rien dire. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ce matin.
Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Culture Numérique enregistré à la Winter Edition 2022 des Big Boss à l'Alpe d'Huez. Tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. À bientôt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.